Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier. En effet, il s'agit d'une rediffusion des tables rondes que nous avons enregistrées le 10 et 11 septembre pendant le Festival Omnivore. Cette table ronde est venue interroger le végétarisme comme modèle d'avenir. Demain, serons-nous tous végétariens ? Le végétarisme deviendra-t-il la règle et l'omnivore l'exception? Pourquoi cette question tout d'abord? Pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment l'impact environnemental de notre consommation de chair animale et de produits animaux. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, l'élevage représente plus de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En France, il serait responsable de 68% des émissions de méthane, un gaz au potentiel de réchauffement bien plus important que le CO2. L'élevage utilise aujourd'hui 3/4 des terres cultivables dans le monde, emploie massivement des antibiotiques entraînant des problèmes cruciaux d'antibiorésistance, est responsable de déforestation, pollution des eaux comme le phénomène des algues vertes en Bretagne. Et du côté des poissons, ce n'est guère plus réjouissant avec un océan qui est aujourd'hui mis en danger par la pêche alors qu'il est notre puits de carbone essentiel et notre oxygène. Mais une fois que l'on a dit cela, de quel type d'élevage et de quel type de pêche parlons-nous ici? En effet, l'une des raisons de cet impact massif de l'élevage est que notre modèle actuel, en tout cas dans les pays dits développés, est l'élevage intensif, qu'on appelle aussi l'élevage conventionnel. Les animaux d'élevage sont de plus en plus nombreux, dans un espace réduit, sans voir la lumière du jour et avec une vie de plus en plus courte. Mais il existe d'autres manières d'élever des animaux. Et alors là, on voit apparaître des services écosystémiques de l'élevage dit extensif. Captation du carbone par les prairies, entretien des paysages, régénération des sols par le fumier, et j'en passe. Pour parler de tout cela, je reçois trois invités. Brigitte Gauthier. Brigitte est la cofondatrice de l'association L214 qui se bat pour arrêter l'exploitation des animaux. Vous devez tous connaître l'association pour ses vidéos chocs dans des abattoirs notamment. Alexandra Ondermark. Alexandra est sociologue et historienne du mouvement végétarien, période fin 19e siècle, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Émilie Janin. Émilie est éleveuse de bovins depuis plus de 15 ans en Bourgogne. Elle a été pionnière dans la mise en place de l'abattage mobile à la ferme et prône un élevage respectueux de l'environnement et du bien-être animal.
Bonjour. Je vais commencer par toi, Alexandra. Cette table ronde, je voudrais que l'on comprenne les origines de ce mouvement végétarien, puisqu'en France, c'est environ 2,2% des personnes qui se disent végétariennes. À quand on date les premiers végétariens? Et c'est quoi les origines de ce mouvement?
Alors, le début du mouvement végétarien, en fait, on peut le faire dater au 19e siècle. C'est vraiment au 19e siècle que se mettent en place les premières organisations qui vont avoir pour but de défendre le végétarisme. Donc ça ne veut pas du tout dire que personne n'était végétarien avant, bien au contraire. Il y avait des personnes qui pratiquaient l'abstinence de viande pour diverses raisons. Mais c'est vraiment au 19e siècle que, d'abord dans les pays anglo-saxons, donc en Angleterre et aux États-Unis, puis en Europe continentale, on s'est mis à s'organiser pour défendre le végétarisme. Et les raisons qui étaient mobilisées à ce moment-là étaient alors complètement différentes de ce que tu as évoqué, Fanny, juste avant, justement. À cette époque, le problème, c'était plutôt de réformer les comment dire de réformer en gros toutes les classes populaires et leur comportement. C'était aussi d'élever l'âme humaine, de promouvoir une réforme hygiénique, etc. C'était plein d'autres raisons qui n'étaient pas du tout des raisons environnementales, en fait. Donc, voilà, il y avait aussi des préoccupations religieuses, morales, etc. Mais on ne se souciait pas vraiment, en fait, de la gestion des ressources. Et également, voilà, de tout ce qui était. On se souciait un petit peu de l'élevage et de l'abattage, mais vraiment dans des proportions très réduites. Voilà.
Est-ce qu'on se souciait du bien-être animal ?
On s'en souciait, mais de manière marginale. Les principaux arguments du mouvement, en fait, ça allait être plutôt envers les. Ça allait plutôt des raisons envers les hommes. C'est-à-dire qu'on allait dire que le végétarisme permettait d'avoir une meilleure santé, permettait d'être plus noble moralement, et tout ce qui était souci pour le bien-être animal, c'était secondaire, mais ça existait quand même.
Et quel rôle a joué la religion, du coup, là-dedans ? Tu nous as dit qu'il y a des raisons religieuses.
Oui, il y a aussi des raisons religieuses, puisque... Par exemple, enfin, ça générait beaucoup de conflits religieux, puisque dans la religion catholique, par exemple, il y a tout un ensemble de préceptes qui disent que la viande est un don de Dieu aux hommes et que ce serait une offense à Dieu, du coup, de ne pas en faire usage. Il y a aussi des raisons religieuses selon lesquelles l'homme est supérieur aux animaux et du coup, c'est quelque chose, en fait, ce sera en quelque sorte un commandement divin de les exploiter. Donc ça met en jeu tout un ensemble de débats religieux. Et du coup, le végétarisme a plutôt été défendu par des sectes chrétiennes ou des mouvements protestants, plutôt que voilà, des groupes catholiques. Voilà.
Brigitte, vous avez fait le choix il y a de nombreuses années de devenir végétarienne puis végane. Quels sont les arguments qui vous ont amené à faire ce choix ?
Alors très clairement, c'est la question des autres animaux qui, comme nous, sont des êtres doués de sensibilité, qui tiennent à leur vie, qui tiennent à leurs proches. Et c'était la prise de conscience. Alors pour resituer, c'était un temps où il n'y avait pas Internet, dans l'Auvergne profonde. Je fréquentais une ferme qui était celle des grands-parents de mon compagnon, Sébastien, qui est aussi un des fondateurs de l'association. Son grand-père était le seigneur du village, seigneur A.I., donc il tuait les cochons pour la consommation familiale, mais aussi il allait tuer les cochons de ferme en ferme. Il était éleveur de vaches laitières, une quinzaine de vaches à l'époque. Donc on voyait très bien de quelle façon ça se déroulait et ça ne nous posait absolument pas de problème. Donc à la fois on consommait les produits de la ferme et à la fois nous on était partis faire nos études à la ville et donc on consommait aussi en supermarché de façon tout à fait classique. Et puis à un moment, une case de bande dessinée qui retraçait la vie de Siddhartha, le premier Bouddha, et le moine Bouddha est mis en pénitence, mis à l'épreuve dehors, il fait froid, il y a de la neige, et puis deux moines passent devant lui en portant la carcasse d'un cochon. Et la case de BD, lui se s'interroge et dit mais que sont mes souffrances en face de celles qu'on sacrifie au bon plaisir des autres. Et là ça nous a fait une prise de conscience que quand on consommait de la viande, on consommait la chair d'un individu qui aurait sans doute souhaité continuer à vivre. En tout cas, il n'était pas en situation d'avoir envie de mourir. Que d'autres populations, en tout cas des groupes de gens, en tout cas, avaient fait le choix de ne pas manger les animaux pour ne pas les faire tuer. Et ça a été le tout début de notre prise de conscience. Et ce qui est drôle, c'est que le grand-père était éleveur laitier, l'autre était boucher et maquignon, et on n'a pas percuté tout de suite la question du lait, alors qu'on l'avait sous les yeux. Le petit séparé d'avec la mère, le petit qui part au marché, aux bestiaux, pour être vendu, pour être engraissé, pour être vendu à l'abattoir. Et ça, pareil, ça a été une lecture qui nous a fait percuter, alors qu'on avait ça sous les yeux. Et l'accueil par la famille a été... très bon, oui, c'est logique. Il n'y a pas eu de débat au sein de la famille. On s'est trouvé un petit peu isolé quand même. c'était dans les années 90 et du coup, il n'y avait pas. C'était complètement isolé. Et après, on a fait la connaissance de groupes plus organisés Enfin, on a découvert qu'il y avait des philosophes, qu'il y avait. Moi, j'ai redécouvert Pythagore. Voilà, j'ai fait prof de maths, donc Pythagore, je le connaissais avec son triangle rectangle, mais je le connaissais pas comme penseur qui interrogeait déjà à son époque, où il y avait d'ailleurs pas d'élevage intensif, la question de la légitimité de faire tuer des animaux pour les manger, alors qu'on n'en a pas de nécessité. Ça, c'est important, la question de la nécessité. Voilà.
Et donc, c'est avec, en tout cas, la prise de conscience sur le lait que tu es passée de végétarienne à végane ?
Oui.
Je comprends que c'est la question vraiment de la sensibilité animale qui t'a touchée. Émilie, toi, en tant qu'éleveuse, tu la vis au quotidien, cette question de sensibilité animale. Comment tu l'appréhendes ? Je pense à la vie de l'animal, évidemment, tout au long de sa vie, mais aussi à la fin de sa vie.
Oui, alors moi je suis effectivement éleveuse et fille d'éleveur je suis éleveuse depuis 16 ans, 17 ans bientôt. Et effectivement très attachée à la sensibilité des enfin une certaine sensibilité puisque quand on est éleveur, on s'occupe des animaux 365 jours par an. Et effectivement, à un moment donné, et même très souvent, on est confronté à la question de la mort. Alors la question de la mort de ceux qu'on va emmener à l'abattoir, mais pas que. C'est-à-dire que il est un peu simpliste aussi de penser que la question de la mort pour les animaux, que ce soit d'élevage ou même dans la nature, va se poser uniquement quand nous, on aura décidé de les consommer. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi la question de la mort juste dans des accidents, y compris des fois à la naissance. Si on n'est pas là au bon moment, ben le veau il peut mourir dans les secondes qui suivent sa naissance si on fait pas les gestes qu'il faudrait pour le réanimer. Mais ça peut arriver dans la nature et puis ça peut être la prédation, ça peut être la maladie, ça peut être l'accident d'un animal qui va se casser une patte et qui va mourir de surinfection, etc. dans des choses horribles. Donc voilà. Effectivement, on est confronté toujours à cette notion de vie et de mort à peu près tous les jours où on vit. Et effectivement, il y a cette question de emmener nos animaux à l'abattoir et de comment on peut effectivement souvent on nous pose la question de comment on peut aimer des animaux et les emmener de temps en temps à l'abattoir. Bah en fait, on les emmène pas tous à l'abattoir. Déjà, on n'emmène qu'une partie et puis on vit vraiment dans des zones où il faut bien comprendre que moi j'habite dans l'Auxois, donc c'est dans une partie très herbagère de Bourgogne où en fait on a des super collines magnifiques, très très pentues et très très dangereuses. Et en fait il y a des prairies naturelles qui sont ici depuis plusieurs siècles parce qu'il y a de l'élevage depuis plusieurs siècles aussi, et qu'à un moment donné ces terres sont destinées à l'élevage parce qu'en fait on peut pas les cultiver parce que la nature du sol fait qu'en fait il y a rien qui pousse tellement il y a de l'argile, ou alors parce que la terre elle est épaisse comme ça et en dessous c'est de la roche, et qu'en fait il y a donc des prairies naturelles que les végétaux ont ceci de merveilleux que c'est la seule petite usine qui est capable de transformer donc les rayons du soleil en matière végétale, donc, et qu'on n'a rien inventé de mieux qu'un herbivore pour valoriser de l'herbe, et que nous quand on a cette terre on peut pas faire pousser des carottes ou alors les mini carottes quoi, mais voilà. Donc il y a toute cette problématique où effectivement chez nous depuis très très longtemps il y a cet élevage herbivore qui est là, et que si on n'a pas de solution d'abattage digne de nos animaux, bah effectivement c'est atroce et ça n'a aucun sens, et que effectivement oui, on doit en tuer une petite partie. Nous on a 200 bovins et on va tuer une trentaine d'animaux par an. Ça permet du coup de conserver ces bovins, ça permet de vivre, ça permet d'entretenir 230 hectares de terre et voilà, et ça permet d'avoir tout un paysage préservé quoi.
Mais sur l'abattage, t'as pris conscience à un moment justement du fait que même si tu arrivais à faire vivre à tes vaches la meilleure vie que tu pouvais leur donner, il y avait quand même un problème qui est que tu ne contrôlais pas la fin de vie de l'animal, et tu as créé l'abattage à la ferme. Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Oui, alors du coup, effectivement, en 2016, enfin nous on a cette activité donc d'élevage et puis de vente à la ferme depuis 1996, et du coup il y avait cette problématique des abattoirs qui ferment de plus en plus, et des vidéos chocs qui ont dénoncé effectivement des maltraitances en abattoir, et qui ont eu quand même pas mal pour conséquence de fermer beaucoup d'abattoirs. Je pense que depuis, moi je me suis beaucoup intéressée à ça à partir de, et beaucoup activée là-dessus sur 2016, cette question des abattoirs. Et en fait depuis 2016, je pense qu'il doit y avoir 38 abattoirs confirmés. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois, il y a plus d'animaux dans ceux qui restent ouverts. Et puis les kilomètres à réaliser pour les animaux qui restent à abattre sont encore plus nombreux entre leurs fermes et les abattoirs. Et donc moi j'ai travaillé beaucoup depuis 2016 à la mise en place du coup de ce qu'on appelle un abattoir mobile. Donc c'est un ensemble de camions qui vont se déplacer ou dans lequel il y a un certain nombre de technologies qui nous permettent de respecter les normes sanitaires et qui vont se déplacer du coup de ferme en ferme pour ne plus transporter les animaux mais transporter l'abattoir et donc laisser les animaux le plus longtemps possible dans leur environnement avec leurs congénères et pouvoir apporter cet abattage en respectant à la fois cette dignité dans la mise à mort, mais aussi toutes les normes sanitaires pour pouvoir avoir une viande de qualité et ne pas mettre en danger la santé des consommateurs.
Donc comment ça se passe concrètement? Tu as un espèce de mobilhome qui arrive sur ta ferme. Comment ça se passe?
C'est 3 semi-remorques qui vont, parce qu'on travaille sur du bovin, donc du coup c'est assez gros. Donc il y en a un qui va nous permettre d'être l'abattoir en tant que tel, donc il va se déplier en hauteur, en largeur pour pouvoir faire toutes les étapes de travail. Il y en a un autre qui nous permet de stocker les carcasses et de les refroidir en dessous de 7 degrés en 24 heures. Et puis le dernier, il nous permet d'avoir notamment la petite espace. Enfin, ils vont tous s'accoler dans la cour de ferme. Vous allez pouvoir trouver des vidéos sur Internet en regardant le bœuf éthique. Et donc du coup, l'autre, c'est le passage dans lequel vont rentrer tous les salariés, y compris les services vétérinaires. Vous allez avoir les sanitaires, les douches, etc. Et donc cet ensemble constitue l'abattoir quand il est installé. Et donc en fait, on va se déplacer de ferme en ferme. Et on va rester sur une ferme et on va travailler. Donc il y a tout le voilà.
Aujourd'hui, tes animaux sont tués à 100% via ce concept?
Oui.
Okay. Alexandra, à partir de quand arrive l'argument du bien-être animal, puis l'argument environnemental?
Alors c'est un petit peu difficile à dire parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est un petit peu présent dès le début, mais en soubassement. C'est-à-dire que c'était pas, au moins en France, un argument acceptable pour défendre le végétarisme, parce qu'on considérait fin 19e que les hommes étaient supérieurs aux animaux et du coup c'était pas une bonne manière de fixer nos normes alimentaires que de s'intéresser aux animaux. Mais pour autant, il y a certains individus comme Élisée Reclus, par exemple, ou Léon Tolstoï, qui se sont mis quand même décrire des scènes dans lesquelles on fait souffrir les animaux pour rien. On a aussi, par exemple, Tolstoï qui visite un abattoir en Russie, justement pour voir de lui-même comment il peut argumenter en faveur du végétarisme en défendant aussi les animaux. Et voilà, il fait des descriptions absolument abominables d'abattoirs. Donc on a beaucoup de descriptions, en fait, fin 19e. Mais voilà, ce ne sont pas des choses qui guident le mouvement. Le mouvement, il est pour la santé des hommes, etc., pour la réforme morale des hommes, et voilà. Et finalement, ces arguments en faveur des animaux, ils sont vus comme de la sensiblerie. Ils sont vus comme des choses qui sont qui sont pas sérieuses. Et voilà, donc on les voit pas arriver de manière centrale dans le mouvement, au moins avant la Seconde Guerre mondiale, finalement. Voilà, c'était la question.
Donc à partir de la Seconde Guerre mondiale, on voit cet argument.
À partir de la Seconde Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, le mouvement que j'étudie s'affaiblit et on a d'autres associations qui sont créées après la Seconde Guerre mondiale et qui elles vont plus être centrées sur des arguments de bien-être animal. À partir des années 70, on a les théories antispécistes qui apparaissent. Et là, on a beaucoup plus d'arguments en faveur de ça, en faveur de l'environnement. Et à partir aussi du début du XXe siècle, on a quelques arguments en faveur de l'environnement, au sens où on considère que la manière dont les hommes traitent les animaux, c'est le même rapport en fait qu'ils ont envers la nature. C'est un rapport qui est de dégradation. On va par exemple créer des animaux difformes, on va créer des animaux beaucoup trop engraissés, en mauvaise santé, etc. pour l'élevage. Donc ça, c'est aussi des arguments qu'on retrouve, mais ça va pas être des arguments en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou de gestion des ressources en général, parce qu'on considère que c'est pas une ressource limitée en fait. Mais on a quand même un petit peu des questionnements sur le rapport de l'homme à la nature, évidemment.
Brigitte, vous êtes passée de végétarienne puis végane à la création d'une association militante qui prône au long terme la suppression de l'élevage, de la pêche et de l'abattage. Déjà, pourquoi cela? Et est-ce que l'élevage et la pêche ne peuvent pas être vertueux?
Ça dépend. Déjà, créer une association, je pense que c'est une question de rapport à quelque chose qu'on trouve juste. Je pense que chacune et chacun de nous, on peut être engagé dans divers domaines, que ce soit pour aider d'autres êtres humains, que ce soit... Enfin, je pense que... Voilà. Et à l'époque, personnellement, j'étais très engagée à la Croix-Rouge. Sébastien aussi engagé sur des mouvements sociaux. Et on s'est rendu compte en fait que sur la question des animaux, donc on est dans les années, à les débuts des années 2000, il n'y avait pas vraiment de mouvement très fort sur la question des autres animaux et notamment sur la question du spécisme, qui est cette discrimination basée sur l'espèce qui entraîne des différences de traitement qui n'ont rien à voir avec les différences entre les individus. C'est-à-dire, évidemment, les êtres humains sont différents des vaches, des poules, etc. Mais cette différence ne devrait pas nous autoriser à les exploiter jusque dans leur chair, en fait. Il peut y avoir des formes de coopération, mais l'appropriation que l'on fait est vraiment très forte. Grosso modo, pour schématiser, c'est prendre à égale considération les intérêts des uns et des autres. Notre envie de manger un steak ne devrait pas passer devant l'intérêt à vivre d'un autre être vivant doué de sensibilité. Effectivement, on crée cette association et on...
Donc c'est surtout la... Je me permets de te couper, mais c'est surtout la philosophie qui t'amène à la volonté de la suppression de l'élevage. C'est pas tant de dire l'élevage ne peut pas être vertueux ou la pêche ne peut pas être vertueuse, environnementalement parlant en tout cas.
Non, enfin si on regarde les questions environnementales, on a parlé des gaz à effet de serre, des algues vertes, etc. En réduisant le cheptel, comme on dit, le nombre d'animaux, théoriquement... il y aura pas de problèmes environnementaux dus à ça. Des vaches qui sont effectivement sur des prairies naturelles. Alors c'est pas sûr qu'on soit sur un truc favorable sur les émissions de gaz à effet de serre, mais en tout cas quand il y en a moins, ça pourrait ne pas être dommageable sur l'environnement. Pareil, aujourd'hui on s'expose. Tu l'as évoqué sur la question de l'antibiorésistance. Le nombre d'animaux, on tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs. On est assez loin des 30
dans le monde. Dans le monde ou en France ?
En France. En France. 3 millions par jour en France, juste les animaux terrestres. Avec les oiseaux. Ouais, effectivement. Donc il y a 1000 abattoirs en France, en comptant les abattoirs de boucherie et les abattoirs de volailles et lagomorphes. C'est-à-dire les oiseaux, les lapins. Il y a la question des zoonoses. Là on sort ou on y re-rentre par rapport au coronavirus. Il faut savoir que ces maladies qui peuvent passer des animaux aux êtres humains, des autres animaux aux êtres humains, quelque part les élevages intensifs notamment sont de véritables bombes sanitaires. Ça a été dit par des scientifiques du CNRS. Donc sur la question sanitaire, là aussi, si on réduit et si on interdit l'élevage intensif, il y a des chances que humainement parlant, pour nous, ça aille plutôt bien. Et puis il y a la question sociale qui est cruciale aussi. Aujourd'hui, il y a des éleveurs qui s'en sortent, mais une bonne majorité qui ne s'en sortent pas, malgré de l'argent public qui vient renflouer les caisses de temps en temps. On a vu sur les élevages de cochons, c'est quelques 300 millions d'euros qui sont allés renforcer les trésoreries avec les fluctuations des cours des céréales. C'est trois quarts des terres, effectivement, qui sont consacrées à l'élevage. Donc voilà, en réduisant, on devrait normalement... ça pourrait être soutenable environnementalement, sanitairement, socialement, le partage des ressources aussi avec d'autres régions du monde. Aujourd'hui, on importe encore du soja du Brésil, etc. Voilà. Mais sur la question éthique vis-à-vis des animaux, c'est là où il y a quelque part le nœud du problème. Aujourd'hui, enfin, et puis on le voit, c'est extrêmement culturel. On mange ici des vaches, des poules, des cochons, mais on se permet pas de manger des chats et des chiens. Ça nous révèle que c'est extrêmement culturel, notre rapport à la viande, notre rapport à la nourriture. Voilà, ce qu'on trouve acceptable pour certains animaux, on le trouve inacceptable pour d'autres. Ça, c'est un spécisme inter-espèce aussi. Donc, avec L214, on amène des questions de société. C'est pas la question de juger des personnes. C'est vraiment une question au sens large de c'est quoi notre avenir? Est-ce que c'est un avenir avec les animaux, en coopération, en bonne intelligence, hein, quand on parle de l'entretien des paysages, quand on parle de récupérer le fumier et tout, c'est les animaux vivants qui nous le donnent, donc voilà. Enfin, et je pense qu'ils ont aucun problème à ce qu'on exploite leur caca. Ça, je pense qu'on peut le faire de façon tout à fait respectueuse. Donc voilà. Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces questions-là qui sont sous-jacentes. Et du coup, pour provoquer le débat. Alors au départ, on distribuait des tracts, comme Élisée Reclus ou comme Tolstoï, pour expliquer de quelle façon ça se passe. Et les gens nous disaient, mais ce que vous nous dites là, c'est pas en France. Ce que vous nous dites là, c'était il y a 50 ans, mais aujourd'hui on fait plus ça. Hein, c'est les États-Unis, c'est les pays de l'Est, mais c'est pas en France. Donc il a fallu aller chercher les preuves de ce qu'on disait. Les poules en cage, les truies enfermées dans ces cages là avec les petits qui étaient à travers les barreaux. Les abattoirs, en fait, je crois que ce qui choque, c'est pas tellement... Enfin, il y a l'acte de mise à mort, qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais comme tu l'as dit, ça intervient aussi à plein d'autres moments de la vie. Nous aussi, on y est confrontés en tant qu'être humain. Mais là, c'est quand même une mort non désirée, choquante, violente, vécue par les animaux, et violente aussi pour les ouvriers d'abattoir, voilà. Et il y a la question aussi de ce qu'on perçoit, de ce que ressentent les animaux, en fait. Je pense que les images qu'on a pu montrer, elles ont choqué, parce que dans les réactions des animaux, dans leur regard, on pouvait percevoir les émotions qui les habitaient, la terreur, la peur, les réactions de fuite. Donc voilà.
Émilie, toi, t'es éleveuse, donc depuis 17 ans, tu nous l'as dit. Comment ça se passe? J'aimerais que les gens comprennent ici vraiment la différence entre l'élevage intensif et l'élevage extensif, parce que ici, ce qui vous rejoint, je pense, c'est le fait que vous êtes d'accord sur le fait que l'élevage intensif est nauséabond. C'est quoi, du coup, un élevage respectueux de l'environnement?
Oui, alors, j'aime pas parler d'élevage intensif pour tout ce qui est ces usines où on va entasser des poulets, des cochons, des lapins, enfin voilà, tout ce que on peut voir dans des vidéos absolument atroces. Je parle plutôt de production animale. C'est le terme qui est adapté, qui est utilisé d'ailleurs dans l'agriculture et dans la formation agricole. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on a voulu industrialiser et produire beaucoup de matière, et produire de la matière surtout pas très chère. Et effectivement, là-dedans, on a rationalisé les animaux comme on rationalise des vis et des boulons dans une usine. Et voilà. Et moi, j'aime pas du tout qu'on associe cette notion d'élevage avec ce type de production, parce que c'est pas du tout ce que je pratique, et c'est pas du tout la philosophie même des éleveurs. Où quand on est éleveur paysan comme je le suis, on essaye d'avoir un nombre d'animaux qui soit adapté à la ressource que nos terres ont. C'est-à-dire que moi, j'ai 200 hectares de prairies naturelles qu'on travaille avec mon frère, et sur ces 200 hectares, on sait qu'on peut avoir 80 vaches allaitantes, c'est-à-dire qu'elles vont allaiter leurs propres veaux jusqu'à 8 mois à peu près, 8-9 mois. Et donc on sait très bien qu'on ne peut pas en avoir 90, sinon on n'aura pas assez d'alimentation, il faudra qu'on en achète, et que ça n'a aucun intérêt économique et encore moins écologique. Et donc du coup, on a toujours on a cette approche très paysanne où du coup, on a le nombre d'animaux qui est adapté aux ressources naturelles de notre terroir, et ce qui fait que même si on ne se réjouit pas quand il y a des sécheresses qui s'enchaînent depuis que je me suis installée, en fait, 16 ans, nous, même en période de sécheresse, on a des surplus de foin, parce qu'en fait, on a toujours cette attitude très prudente, comme l'avaient les paysans avant, de produire, d'essayer d'élever, il y a cette notion de prendre de la hauteur, élever des animaux, et de les élever en respectant aussi leur cycle naturel, leur vie de troupeau, etc., parce qu'en fait, le stress va venir générer un état de mal-être qui va avoir des conséquences sur leur santé. Et donc vraiment, on est dans des états... Nous, on est, mais on n'est pas du tout les seuls. Hein. La majorité de tout ce qui est élevage allaitant, vache allaitante en France, se pratique l'Auvergne, la Bourgogne, toutes les zones montagneuses, etc. Où en fait, on a des animaux qui sont extensivement dehors. Et en fait, de respecter leur rythme de vie, etc., y compris pour l'alimentation, ça évite de les mettre en stress, ils sont en meilleure santé. Et nous, en fait, on n'utilise pas d'antibiotiques, on n'utilise pas de produits chimiques. parce qu'en fait ils sont simplement dans un rythme de vie naturel, et en fait on n'a pas de pharmacie vétérinaire chez nous, quoi. On a juste de l'herbe, on regarde, on surveille beaucoup les animaux, et puis on travaille avec des choses comme très naturelles, comme de l'argile, comme des remèdes de grand-mère, mais voilà. Donc voilà, il y a ça. Alors après, moi, ce qui me dérange beaucoup, je vais juste ramener, quand on dit qu'il y a 3/4 des terres agricoles qui sont utilisées pour l'élevage, c'est parce qu'on inclut dedans les prairies naturelles, hein, et quand même les prairies naturelles, comme j'ai dit tout à l'heure.
Et on inclut aussi les céréales qui poussent notamment en Amérique latine et
oui,
le soja.
Oui, mais la majorité des terres agricoles en France sont quand même de la SAU, c'est quand même des prairies naturelles. Et les prairies naturelles, il n'y a rien de mieux qu'un herbivore pour les valoriser. Voilà. Dans les terres de la SAU en France, la majorité, ce sont des prairies naturelles. Après, voilà, il y a aussi toute cette notion de bien-être animal. Alors, on l'a dit tout à l'heure, dans les vidéos chocs, moi aussi, ça m'a surpris, parce qu'on voit effectivement, on a vu des choses qui étaient absolument atroces et qu'il faut plus que ça puisse se reproduire. Mais moi, j'aime pas parler de bien-être animal. Je préfère parler de bien-traitance animale, c'est-à-dire tous les actes qu'on va essayer de mettre en œuvre, que ce soit à l'élevage, y compris dans l'abattage, pour essayer de respecter les animaux et leurs besoins. Et après, j'aimerais qu'on fasse un petit peu plus d'études et qu'on travaille là-dessus. Mais y compris, moi, je ne fais expérience personnellement dans ma vie, c'est assez compliqué de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, un autre homme, dans une autre situation, pour pouvoir imaginer ce que lui il aimerait pour son bien-être. Alors le faire pour des espèces différentes, je pense que c'est carrément impossible. Donc du coup, je préfère qu'on parle de bien-traitance, parce que le bien-être, ça suppose qu'on puisse se mettre à la place d'eux pour pouvoir l'évaluer et le savoir de quoi il en retourne. Après, il est vrai que là-dessus on se rejoint, toute cette exploitation des animaux dans ces unités de production, elles sont absolument atroces, et c'est normal que ça soit dénoncé, parce que c'est pas soutenable. Maintenant, comment on fait pour justement soutenir d'autres systèmes, pour agir concrètement, pour que effectivement des éleveurs vertueux qui travaillent comme nous sur des systèmes herbagés, etc., puissent continuer à produire de l'alimentation de qualité, à préserver les prairies, la biodiversité, préserver la ressource en eau, etc., parce qu'on a besoin de l'élevage pour ça. L'élevage paysan, l'élevage herbagé, il est essentiel pour ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on pointe souvent l'élevage bovin dans les émissions de gaz à effet de serre, mais en comparaison, c'est quand même des animaux qui sont plus souvent dehors que les autres. Alors, on a des chiffres assez quand même effrayants. En effet, 99% des lapins qui sont élevés en cage, 98% des cochons en France qui sont élevés dans des bâtiments sans voir la lumière du jour. Et pourtant, c'est souvent le bovin qui est pointé du doigt.
Oui, c'est vrai que c'est assez complexe. Et d'ailleurs, quand on parle de aux gens et qu'on les interroge savoir s'ils mangent de la viande ou pas, tout le monde pense à la viande rouge, carnée, etc. Tout le monde pense à la viande rouge. Et il y a des gens qui sont capables de dire, en mangeant un jambon beurre, qu'ils ne mangent pas de viande, quoi. Ou en mangeant un nugget du McDo, en disant, non, moi, je mange pas de viande. Alors qu'en fait, effectivement, souvent, la viande rouge se sent pointée du doigt et accusée, alors que nos systèmes d'élevage de vaches allaitantes sont très, très vertueux et extensifs. Et que, effectivement, le jambon, le poulet, le lapin, ce sont des, malheureusement, pour tous ces animaux-là et ces espèces, ce sont des animaux qui vont consommer effectivement beaucoup de céréales qu'on pourrait utiliser pour nous les hommes et effectivement être mis dans des conditions qui sont absolument atroces, où effectivement ils ne voient pas le jour, quoi.
On n'a pas parlé. Oui, Brigitte, tu veux rapidement compléter?
Oui, je voulais juste réagir. Les élevages bovins, c'est quand même des systèmes très divers. Il y a aussi en ce moment notamment des acteurs hollandais qui viennent s'installer en France avec des ateliers d'engraissement. Et en fait, en France, 91% des veaux issus des filières laitières notamment sont en élevage intensif, là aussi, c'est-à-dire dans des bâtiments fermés sur du caillebotis, donc les sols ajourés, etc. Donc c'est aussi très divers l'élevage bovin, mais c'est vrai que la majorité des animaux, on peut à peu près dire que 8 animaux sur 10 en France qui sont abattus viennent d'élevage intensif, avec les chiffres que tu as rappelés. Et sur le bien-être animal, alors moi j'aime pas ce terme non plus, j'aime pas ce terme parce que aujourd'hui, quand on parle de bien-être animal, en fait on est en train d'essayer de faire des éléments de langage pour faire penser qu'il y a du bien-être animal dans des conditions qui sont absolument terribles. Et il y a une tribune qui est parue il y a quelques mois maintenant, de chercheurs de l'INRAE et du CNRS, qui disent: on nous a fait plancher pendant des années sur le bien-être animal. Et en fait, on a juste servi à faire de l'animal washing. pour essayer de chercher des solutions pour qu'il y ait du bien-être animal dans les systèmes intensifs. Et donc ils disent non, dans les systèmes intensifs, on ne peut pas parler de bien-être animal. Et le bien-être animal, ils prennent comme définition celle qui a été élaborée par l'ANSES, qui date de 2018, et qui dit que le bien-être, on l'évalue du point de vue physique et du point de vue mental. Donc effectivement, on peut pas se mettre à la place de l'autre, mais en tout cas, ces chercheurs et chercheuses se sont penchés sur des moyens d'essayer d'objectiver les besoins, les envies des animaux. Voilà. Il y a vraiment un travail pédagogique très important à faire sur la réduction de la consommation de viande et sur l'alimentation 100% végétale. Parce que quand vous réduisez votre consommation de viande, ça veut dire qu'il y a des jours... Alors, quand on parle viande, c'est presque le terme générique pour dire viande, lait, œuf, poisson. Et quand on parle de ça, ça veut dire qu'il y a des jours, plusieurs, beaucoup plus que de jours où vous allez manger de la viande, vous allez manger 100% végétale. Et aujourd'hui... les tenants de l'industrie de la viande, du tout bidoche, essayent de semer le doute en disant « Non, mais en France, on mange pas beaucoup de viande. Ben, on mange 84,5 kilos de viande par personne et par an, ce qui nous met dans le peloton de tête des pays qui consomment de la viande, par exemple. » Donc, il y a vraiment un travail de pédagogie à faire, justement, pour les personnes qui prônent un modèle différent. Alors, effectivement, nous, notre modèle, notre vision, elle va jusque une société de coopération avec les animaux. Mais en tout cas, entre tous les acteurs qui disent stop à l'élevage intensif, on devrait être capable de se mettre ensemble pour se mettre en face de, on va les nommer la FNSEA, pour essayer de changer le modèle agricole qui aujourd'hui nous emmène droit dans le mur sur plein de sujets, et y compris pour les éleveurs eux-mêmes.
Avant de donner la parole au public, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu nous as dit la viande, c'est aussi le poisson, les œufs, le lait. Et depuis le début, on ne parle pas tellement des poissons. Une question pour toi, Alexandra. Est-ce que cette question du poisson, elle a été prise en compte dans le mouvement végétarisme?
Assez peu, mais un petit peu, mais toujours pour des raisons sanitaires. En fait, le poisson et les coquillages, c'est des choses qui se périment très très rapidement. Donc ça crée un petit peu des réticences de leur point de vue. Mais pour autant, il y avait aussi une hiérarchie des viandes qui était mise en avant par le mouvement végétarien à l'époque. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Émilie, avec l'idée que la viande à combattre par excellence, c'était vraiment la viande de bœuf. Vraiment l'avatar de la viande, la pire, la plus chargée en toxines, etc., en poison, et également la plus chargée culturellement aussi. C'était vraiment la viande de bœuf. Et ensuite, on avait voilà tout ce qui était lapin, volaille, etc., qui était un petit peu moins criminalisé. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de questions culturelles et symboliques derrière ces questions en fait de hiérarchie entre les viandes, parce que la viande rouge et la viande de bœuf, c'était aussi la viande la plus préconisée par certains médecins à l'époque, parce qu'on la considérait comme la plus nourrissante, la plus nutritive, et celle qu'il fallait recommander aux ouvriers pour qu'ils soient productifs. Donc voilà, c'est vraiment très très chargé en termes de symbolique, toutes ces questions de différentes viandes.
Émilie, toi, comment tu vois le fait que justement, quand on parle végétarisme, on a tendance, et on l'a vu, on a passé 80% du temps à parler de la viande, on n'a pas parlé quasiment pas de parler de poisson. Pourquoi ?
Je pense que les intérêts de la pêche intensive représentent certainement des millions et des millions et des milliards sans doute, et que du coup on s'attaque pas encore à cette industrie. Et que moi, ce qui me dérange énormément en tant qu'éleveuse, c'est que on va critiquer l'élevage là, on a critiqué l'industrialisation, on n'a pas du tout critiqué la mondialisation et le fait que le contenu de nos assiettes ait fait 3 fois le tour de la planète. Ça change personne de manger de l'avocat toute l'année. Moi, quand j'étais gamine, je suis pas hyper vieille, mais bon, on avait de l'avocat que l'hiver, au moment de Noël, c'était un peu un truc de fête de manger un avocat par an avec des petites crevettes, etc. Maintenant, on en trouve toute l'année, comme des mangues, comme des fruits de la passion. Enfin bref, on a de tout toute l'année, tout le temps dans les étals. Et en fait, ça choque personne. Ça prend des bateaux à tout le temps, à foison. Et on va nous culpabiliser sur finalement certaines choses, alors qu'en fait, ce qui est dérangeant, c'est surtout qu'en fait, on a complètement masqué le fait qu'il y ait en permanence ces super cargos porteurs de containers, dont un seul pollue autant que toutes les voitures de tous les continents réunis, et qu'en permanence, il y a 60 de ces cargos qui sont tout le temps en train de naviguer sur les océans. Et cette mondialisation, elle bénéficie à tellement de gens
supra méga riches sur cette planète qu'en fait on se tait. Mais effectivement, la pêche revient là-dessus, l'alimentation aussi. Et voilà. Enfin, moi, ça me révolte parce qu'en fait, c'est un faux problème. Quand on dit aussi aux gens, enfin, c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'on masque les choses. Effectivement, il y a des choses à changer et vraiment à changer. Quand on dit aux gens, pour sauver la planète, arrêter de manger des steaks, c'est très très simpliste et en fait c'est du foutage de gueule. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a quand même des politiciens et de politiques qui font de la politique avec un grand P. On a une politique agricole commune qui est censée s'occuper de l'alimentation de nos citoyens, au moins sur tous les pays de l'Europe, et qui coûte 9 milliards d'euros. Et donc, on pourrait se dire quand même que, à un moment donné, on a cette politique peut avoir une influence sur le mode de production et sur ce qu'on va mettre dans nos assiettes. Donc, on peut agir un petit peu, au moins à cette échelle toute petite de l'Europe, sur comment on change ces systèmes. Malheureusement, à chaque fois que, et là je reprends, enfin voilà, je me dis donc du coup on a une manière d'agir, c'est-à-dire que quand on vote, on n'est pas que mangeur, quand on vote, on peut agir là-dessus sur nos politiciens et demandons-leur des comptes et de rendre des comptes, parce que quand eux-mêmes disent qu'en fait le consommateur devrait agir, en fait à un moment donné eux aussi, quand ils écrivent la politique agricole commune, ils agissent quoi, enfin avec notre argent à nous contribuables. Donc à un moment donné, agissons et exigeons des résultats. Et puis l'autre truc qui m'énerve, c'est que effectivement, malheureusement, cette fameuse politique agricole commune, elle favorise toute cette industrialisation. Le plus gros bénéficiaire de la PAC en France, c'est quand même le groupe Doux, qui est un groupe industriel qui fait du poulet industriel dégueulasse, qui inonde les cantines et les gamelles de nos enfants et la bouffe pas chère des nuggets et compagnie. Et finalement, ceux qui en bénéficient le moins, ce sont les éleveurs comme mes collègues et moi de vaches allaitantes, qui, en fait, même si on se rend compte quand on prend une carte de France que la ressource en eau potable, elle est là où il y a de l'élevage extensif comme je le pratique et comme beaucoup de mes collègues, et qu'on a besoin, et que l'eau va devenir ça va provoquer des guerres dans pas très longtemps parce qu'on n'aura plus d'eau potable, même plus d'eau du tout. Et ben, en fait, il y a un vrai enjeu à venir soutenir cet élevage dans des zones pour préserver la biodiversité, la ressource en eau, et effectivement avoir un cheptel moindre, en tout cas plus dispersé sur le territoire, parce que nous, moi, grosso modo, j'ai une vache et son veau sur plus d'un hectare, quoi. Donc, on est loin de concentrations énormes. Et en fait, on a besoin de soutenir ce genre d'agriculture parce que dénoncer dans des vidéos, etc., c'est super. Ça a permis de mettre des sujets sur le tapis et d'en discuter comme là aujourd'hui. Mais à un moment donné, faut agir parce que le nerf de la guerre, c'est qu'en fait, les éleveurs sont en train de crever, quoi. Ils n'ont pas de revenus. Et s'ils crèvent tous, clairement, ils ont en plus la moitié des éleveurs ont plus de 55 ans. Si personne ne s'installe, si des jeunes ne s'installent pas. Mais moi, je me pose la question vraiment de la souveraineté alimentaire. Posez-vous cette question, parce qu'au niveau européen, ce qu'ils sont en train de faire avec cette nouvelle langue de souveraineté alimentaire, c'est de se dire que la souveraineté alimentaire sera atteinte si on vient remplir nos assiettes avec des choses qui viendront de l'autre côté de la planète, quoi, par des accords de libre-échange. Donc, à un moment donné, voilà, il faut falloir agir concrètement pour que ça change, effectivement. Ouais.
Je voudrais donner la parole maintenant, Brigitte, je te laisse compléter et rapidement et on donne la parole au public.
Oui, pour revenir sur la question de la pêche et de la pisciculture, en fait c'est très difficile d'obtenir des images sur les bateaux de pêche. Et c'est surtout sous l'eau que ça se passe. Alors il y a des choses qui se passent sur les bateaux, on l'a montré avec la pêche au chalut. Pour la pisciculture, on a montré Aqualand qui est un des plus gros acteurs, qui est justement dans les Landes. Et c'est pas super simple de montrer, mais dans le monde ça représente 1000 milliards d'animaux aquatiques minimum qui sont tués chaque année. Juste pour donner une échelle, on est 100 milliards d'êtres humains à s'être succédé sur la planète depuis les débuts de l'humanité, et donc on tue 1000 milliards d'animaux aquatiques par an et 70 milliards d'animaux terrestres par an, juste par nos activités d'élevage. Là je parle juste de l'élevage. Sur lâche ton steak pour sauver la planète, Je vais m'inscrire un peu en faux, parce que, alors vraiment, arrêter de manger les animaux, c'est pour les animaux qu'on le fait. Voilà, sur les questions environnementales, ça peut se discuter, il peut y avoir du doute et tout ça. Mais néanmoins, il y a un rapport qui est sorti qui dit que même si on arrête les énergies fossiles, du jour au lendemain, toutes les énergies fossiles, on n'arrivera encore pas à respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire les 1,5 degrés. Il faut aussi réduire la consommation de viande. Donc, effectivement, lâcher quand même pas mal son steak. Et dans les projections qui sont faites, dans les recommandations qui sont faites, on recommande de diminuer de 90% la consommation de viande et de 60% la consommation de produits laitiers. Donc, c'est pas rien. Enfin, c'est vraiment un bouleversement dans notre tradition culinaire, dans notre culture, un vrai changement d'assiette. Et effectivement, c'est les politiques qui devraient prendre ça, mais j'ai aussi envie de renvoyer la balle aussi un peu du côté des éleveurs, parce qu'aujourd'hui, le syndicat majoritaire, c'est la FNSEA. Ça veut dire qu'il y a encore des gens, des agriculteurs qui votent dans les élections professionnelles pour ce syndicat qui continue de les emmener dans le mur. Hein. La fin des jachères, c'est la FNSEA, COPACO-GECA, qui est au niveau européen, qui le pousse. Voilà. Et après, sur le soutien aux petites exploitations et tout ça, alors côté L214, pour nous, ça va être compliqué, puisque nous, on va plutôt soutenir le développement de l'alimentation végétale, les légumineuses, etc. Néanmoins, ce qu'on montre, c'est vraiment la majorité, ce qui se passe dans les élevages de pire pour les animaux, et c'est là-dessus qu'on va appuyer le plus possible. C'est vrai qu'on ne va pas montrer des vaches dans les prés. Pour nous, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment d'arrêter l'élevage intensif et d'engager des politiques fortes en matière de réduction de la consommation.
Alors, je voulais juste réagir. C'est juste que, enfin, vous dites vous pouvez pas soutenir l'élevage vertueux, etc. Je peux le comprendre, mais quand vous dites on va promouvoir plutôt la production de protéines végétales, etc. et l'alimentation, du coup vous êtes allié de la FNSEA et de Christiane Lambert et de tous. Parce que c'est eux en fait qui malheureusement la FNSEA elle est détenue plutôt par des céréaliers qui sont dans cette protéine et donc du coup votre allié.
Pour les animaux, mais c'est pour les humains
directs. Non, on fait les deux en fait. Mais du coup à un moment donné. Si on n'a pas d'éleveurs, si on n'a plus d'éleveurs, effectivement, ça va être impossible d'un point de vue agronomique de produire quoi que ce soit de végétal sur des terres si on n'a pas du fumier. Et à un moment donné, vous disiez, on n'a pas de problème à exploiter les bouses, mais en fait, c'est pas juste les bouses d'animaux qui n'ont rien à nous donner les bouses pour nourrir les sols. C'est à un moment donné, il faut que s'inscrire dans une économie, c'est-à-dire que qui et comment on monte un modèle économique, et là on en discute après, sur quel est le modèle économique d'aller récolter des bouses d'animaux qu'on n'a plus le droit d'élever pour juste aller fertiliser des sols sur lesquels on fera de la protéine. Moi je ne comprends pas quoi, mais on en discutera un peu.
On vous laissera débattre après peut-être de ces sujets-là. Je vais vraiment devoir couper, c'est vraiment passionnant et je vous invite à continuer le débat avec nos invités que je remercie extrêmement chaleureusement pour leur présence.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable.